Patrick, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le gouvernement afghan a commencé à libérer un groupe de 400 prisonniers talibans, parmi lesquels des auteurs d'attentats meurtriers, conditions posées par les insurgés islamistes à l'ouverture des pourparlers de paix. Le président Ghani espère que les talibans s'engageront d'ici là à un cessez-le-feu complet, ce qu'ils n'ont pas fait explicitement. Les talibans n'ont pas réagi dans l'immédiat. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité hier de la normalisation des relations entre l'État hébreu et les Émirats arabes unis. Pour lui, une nouvelle ère commence dans les relations entre Israël et le monde arabe. Le point avec Nani Talani.
Monsieur Netanyahou a déclaré avoir eu une discussion trilatérale avec le président américain Donald Trump et le cheikh émirati Ben Zayed. Les trois hommes ont convenu d'un accord de paix complet avec des échanges d'ambassadeurs et des échanges commerciaux, y compris des vols directs entre Abu Dhabi et Tel Aviv. Les Émirats vont investir des sommes importantes en Israël. Il s'agit d'une ouverture pour la paix dans la région, a affirmé le premier ministre israélien, se félicitant de ce troisième accord de paix avec un pays arabe, après l'Égypte et la Jordanie. Cette normalisation faisait partie du plan de Trump pour le Proche-Orient, qui prévoyait aussi l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et des colonies juives en Cisjordanie occupées, un projet décrié par les Palestiniens. Pour le mouvement islamiste de Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, la normalisation des relations entre Abu Dhabi et Tel Aviv ne sert pas la cause palestinienne et constitue un chèque en blanc pour la poursuite de l'occupation par l'État hébreu.
Le Bélarus est prêt à un dialogue constructif avec l'étranger sur la récente élection présidentielle et la contestation réprimée dans la violence qui l'a suivie, a affirmé aujourd'hui la diplomatie bélarusse. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réclamé aujourd'hui des sanctions contre ceux qui violent les valeurs démocratiques et les droits humains au Bélarus dans un tweet publié peu avant une réunion des ministres de l'Union européenne. Sur le continent, l'État régional du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, devrait suspendre son projet d'organiser des élections en septembre pour éviter de tendre encore un peu plus ses relations avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, a plaidé aujourd'hui International Crisis Group, ICG. Les deux parties vont droit à la collision au sujet de ces élections, alors que le gouvernement fédéral a reporté sine die le scrutin prévu fin août à l'échelle du pays en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a prévenu le cercle de réflexion. Les opposants de M. Abiy, prix Nobel de la paix 2019, l'accuse de vouloir tirer parti de la situation sanitaire pour s'accrocher au pouvoir. Un drone américain s'est à nouveau écrasé dans le nord du Niger, où les États-Unis disposent d'une importante base de drones armés destinés à la lutte contre les groupes djihadistes dans la bande sahélienne, a indiqué jeudi à l'AFP le commandement de l'armée américaine en Afrique. C'est le troisième drone perdu par les Américains depuis le début de l'année, après la chute de précédents engins le 29 février et le 23 avril 2020, également dans la zone d'Agadez. L'armée américaine avait alors parlé d'une panne mécanique. Port-Soudan, la deuxième ville du Soudan, a connu jeudi sa première journée de calme avec la présence passive des forces de sécurité après quatre nuits de violences tribales ayant fait plus de 30 morts selon les autorités. Le ministère soudanais de l'Intérieur a assuré jeudi soir dans un communiqué que la situation était calme dans la ville grâce au déploiement massif de la troupe, mais a déploré le décès d'une personne blessée mercredi, portant le nombre de morts à 33. Des gestionnaires de fonds de lutte contre le COVID-19 en République démocratique du Congo ont été traduits en justice, accusés de mauvaise gestion, a annoncé aujourd'hui l'inspection générale des finances. Dans les prochains jours, la justice de notre pays pourra interpeller les personnes impliquées, a déclaré à la presse l'inspecteur des finances Jules Aliguinté, parlant de faits de mégestion caractérisés. Des enquêtes ont été menées par l'autorité financière dans plusieurs administrations et structures de l'État. Le 17 juillet, le gouvernement congolais avait annoncé un audit dans l'équipe gouvernementale chargée de la lutte contre le COVID-19. Cette structure, chapeautée par le premier ministre Sylvestre Ilunga Ulukamba et gérée par le ministre de la Santé Eteni Longodo, épaulée d'une équipe d'experts dirigée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Jean-Roger Billon, prochaines infos dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
t'aimer.